On est à présent avec Gilles Anus dans le cadre du festival Philosophia. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur de philosophie dans le secondaire. Vous dirigez également les cahiers d'études lévinassiennes et vous animez des conférences à l'Institut d'études lévinassiennes où vous donnez régulièrement des conférences. Aujourd'hui, le thème du festival Philosophia, c'est l'autre. Tout d'abord, quelle est votre relation, votre rapport à ce thème de l'autre ?
Au thème de l'autre en général. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup dans le sens où ma tradition philosophique, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire les choses que moi j'ai étudiées étant étudiant avant de devenir prof et avec lesquelles j'ai construit ma façon de philosopher, sont des philosophies qui s'intéressent beaucoup à cette question de l'autre, donc notamment Sartre et Lévinas, qui sont, bon, il y en a d'autres, mais enfin deux grands penseurs dans mon itinéraire, sont des penseurs qui ont une pensée qu'on appelle en philosophie, donc une pensée de l'altérité, hein, et qui s'efforce, pour Sartre en tout cas, de distinguer parmi les autres choses des différence d'altérité, c'est-à-dire Sartre considère que les choses, par exemple, sont autres que moi, évidemment, mais elles sont autres que moi d'une autre façon qu'un autre homme est autre que moi. Hein, donc il y a des degrés d'altérité ou des niveaux d'altérité. Et puis chez Lévinas, il y a une pensée de l'altérité qui est très forte aussi, qui est une pensée qu'on appelle, quand on veut la résumer d'un mot simple, éthique, hein, qui consiste à accorder à l'expérience qu'on fait de la rencontre d'autrui un rôle absolument capital, puisque selon Lévinas, ce qui se joue dans la rencontre d'autrui, c'est une sorte de bouleversement complet de ce que nous sommes et de la façon dont nous sommes en relation avec le monde, pour essayer de dire synthétiquement.
Votre dernier ouvrage s'intitule « Éloge du tact ». Pourquoi ce sujet ? Pourquoi le tact ?
Alors là, si je suis franc avec vous, je vais vous dire la chose. L'histoire est très, très simple. On m'a commandé ce livre il y a très longtemps, avant le confinement, avant le Covid. Un éditeur, je ne vais pas dire son nom, mais m'a contacté en disant « Voilà, on crée une collection, on voudrait faire des petits livres. » Vous savez, ça se fait beaucoup sur des thèmes comme ça. Et ils m'ont proposé à ce moment-là de faire quelque chose sur la discrétion. Et ils venaient de sortir un livre sur la discrétion, ce que moi je savais. Je leur dis non, donc c'est pas vrai. Et donc j'ai proposé le tact parce que c'était proche. Ils avaient un intérêt pour ça. Bon, très bien. Donc je rentre en contact. Enfin, cette personne rentre en contact avec moi, me demande un livre sur le tact. Je commence à l'écrire. J'écris 3-4 chapitres, je sais plus, quelque chose comme ça. Et puis je les lui donne. Bon, et la personne me dit ah oui, ça m'intéresse beaucoup. Nanana. Bon, puis un jour, elle me dit je vais le montrer à mon chef, directeur de la maison d'édition. Et là, elle le montre à son chef. Et elle me dit oh là, je suis désolé, c'est beaucoup trop dur, dit-il. Il trouvait ça beaucoup trop dur. Alors il voulait vraiment, parce que, bon, je sais pas, mon livre, si on le lit, je crois qu'il est certainement dur par moment. Mais enfin, c'est écrit dans une langue, je crois, très claire. Je suis très attentif à ça. Moi, je veux qu'on me comprenne. Je suis assez opposé à l'ésotérisme philosophique. Mais enfin, il voulait de la philosophie pour les nuls. Bon, c'était pas ce que je suis capable de faire. Donc, très bien, il m'a dit, bon, on le prendra pas, on l'a pas pris. Et puis, il se trouve qu'il y a eu le confinement. J'étais à la maison, comme tout le monde, j'imagine. Et puis, je faisais mes cours à distance, etc. Et à un moment, je me suis dit, mais j'ai le livre, là, j'ai plein de temps devant moi, je vais le reprendre. Et je l'ai fini. En me disant, c'est pas grave, j'ai pas d'éditeur, je le finis. Je l'ai fini, je l'ai envoyé à Liber, donc à un éditeur québécois. Hein, parce que je cherchais un éditeur francophone et qui ne soit pas français pour des raisons X ou Y dans lesquelles je ne vais pas rentrer là. Et il se trouve que 6 mois après, ils m'ont appelé en me disant bah, « Si votre livre est toujours libre, on le prend. » Et donc, en fait, j'ai été amené à penser le tact à partir d'une sollicitation extérieure. Moi, je n'aurais pas pris ce thème par moi-même, mais je me suis rendu compte en travaillant que c'est un thème qui m'intéressait énormément, alors que je n'aurais jamais pensé.
Et dans le cadre de ce festival, vous avez donc donné une conférence, « Éloge du tact », à laquelle Laurine s'est rendue.
Exactement. Alors, pour commencer, on va essayer de donner une petite définition du tact, déjà, pour poser le cadre pour nos auditeurs. Moi, ce que j'ai noté, c'est que vous définissez le tact comme une preuve d'intelligence sensible pour saisir le sens de l'instant. Et à la fois, ça mêle une action de façon imprévisible. Il y a une histoire d'inattendu. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, s'il vous plaît ?
Voilà, il y a les deux éléments, effectivement. Vous dites très bien. C'est-à-dire que je considère le tact comme la manifestation de ce que j'appelle l'intelligence sensible de l'homme, de chacun d'entre nous, c'est-à-dire une intelligence qui ne soit pas simplement théorique, mais qui soit une intelligence qui passe aussi par les sens et donc par ce que je ressens de l'autre. Et c'est dû au fait, je crois, que le tact, ça dit deux choses, même dans le dictionnaire, si vous voulez, tout simplement. D'abord, le premier sens du mot tact, c'est le toucher. Donc c'est vraiment ce sens du toucher, donc cette sensibilité. Et le deuxième sens, c'est effectivement une sorte d'attention à ce qui se passe, attention à une situation, qui fait qu'on va réagir à cette situation de façon inattendue. Hein, comme ça, vous avez les deux éléments qui se lient. Donc, c'est bien de l'intelligence, puisqu'il y a une attention au moment. On saisit quelque chose, forme d'intuition. Et puis, il y a aussi le côté sensible, puisque ça se joue dans le toucher, dans le tact, donc dans la relation sensible avec l'autre.
Ce que vous disiez aussi, c'est que ça s'oppose à la brutalité. Et que les moyens déployés pour l'atteindre nécessitent parfois un détour plutôt que d'emprunter une voie droite. Donc ça sous-entend qu'en effet la brutalité, c'est un peu emprunter la voie droite sans prendre de détour, ça a l'air plus simple. Alors pourquoi l'humain a inventé le tact en fait?
Pourquoi il l'a inventé, je sais pas, parce que ce qui est sûr, c'est que dans notre relation aux autres, on a une certaine tendance, dans un premier temps en tout cas, à quelque chose de très direct. Voilà, vous adressez à quelqu'un, vous plantez vos yeux dans ses yeux, ou vous lui posez la main sur l'épaule, ou etc. Et bon, et puis parfois dans les relations humaines, on le voit bien, on le sait tous, des fois on a tendance à être un peu, entre guillemets, cash, quoi. Voilà, on y va directement. Et précisément, le tact, il vient, alors je ne sais pas comment on l'a inventé, hein, mais le tact vient du fait qu'on peut se rendre compte, dans diverses situations, que en fait, cette voie droite, parfois, elle est totalement inefficace. C'est-à-dire qu'elle brutalise l'autre sans qu'on parvienne à ce qu'on voulait. Donc en vérité, je crois que c'est là qu'on est dans cet échec de la voie droite, que l'esprit humain qui, je sais pas, s'adapte à un certain nombre de situations, c'est aussi ça l'intelligence, a essayé de trouver des voies détournées. Hein. Non pas pour le détour lui-même, mais parce que précisément il y a une impuissance de la voie droite ou de la voie directe.
Alors justement, en parlant de puissance, vous dites aussi que s'il est allergique au pouvoir, il n'est pas étranger à la puissance, le tact. Alors c'est quoi la puissance du tact?
Alors, pour expliquer la puissance du tact, parce qu'évidemment, je fais effectivement, comme vous l'avez dit, je fais une distinction entre pouvoir et puissance. Il me semble que le tact, justement, c'est pas du pouvoir dans le sens où c'est renoncer à la voie droite et donc c'est renoncer à exercer son pouvoir sur autrui. Alors maintenant, en quoi ça inaugure une puissance, c'est toute la question. Mais je crois que on peut le comparer pour essayer de le faire comprendre, puisque c'est une comparaison qui s'impose dès qu'on travaille sur le tact, c'est ce que fait la musique. Ouais, le tact, il y a quelque chose de très musical. D'abord, phénoménologiquement même, j'ai pas développé dans la conférence, mais dans le livre, il y a un chapitre sur la musique. Effectivement, jouer de la musique, c'est extrêmement tactile au sens premier du terme. Ça se fait en pinçant, en grattant, en tirant, en appuyant, etc. Donc ça passe par les mains. Et je crois que dans la musique, c'est déjà Platon qui le disait, hein, la musique, en fait, elle a un effet extrêmement puissant sur nous. Et en même temps, c'est un effet qui est relativement discret au sens où ça ne s'impose pas nécessairement. Ça peut s'imposer aussi quand bon, il y a des époques.
Une symphonie de Bach, ça peut s'imposer très
oui,
franchement.
Oui, une symphonie de Bach, ça peut s'imposer, ou des trucs encore plus prosaïques. Aujourd'hui, un boum boum dans une grosse voiture, ça peut s'imposer. Voilà, quand on habite en ville, c'est vrai qu'on est sans arrêt comme ça, un peu écrasé par la musique. Donc ça peut s'imposer. Mais la musique, elle a cette particularité qu'en fait, d'une certaine façon, c'est forcément métaphorique hein, pour le dire, c'est qu'elle pénètre en nous en vérité. Elle nous fait un effet incroyable. Elle nous fait un effet incroyable, comme la musique de la moto qui vient de passer. Elle nous fait un effet incroyable, mais pas simplement parce qu'on l'entend. C'est-à-dire qu'il se joue quelque chose, il y a un vrai bouleversement potentiel. En tout cas, je ne sais pas si tout le monde y est sensible, mais je crois quand même que massivement ça s'impose. C'est quelque chose qui met en mouvement alors ce que Platon appelait l'âme. C'est quelque chose qui vient à l'intérieur de nous d'une certaine façon. Et je crois que dans le tact, il y a quelque chose d'un peu comparable. Ce n'est pas grand-chose. C'est se retenir de dire quelque chose, ou c'est dire quelque chose un petit peu différemment. Donc c'est pas grand chose, c'est presque rien, mais en même temps ça produit des effets potentiellement très importants.
Et en effet, c'est dire quelque chose à quelqu'un, et c'est là que la notion de l'autre intervient. Et ce que je me demandais, alors c'est un peu un réflexe de communicante, mais est-ce que le tact se mesure plutôt dans l'effet que ça va avoir sur la personne ou dans l'intention qu'on va lui donner? Où est-ce qu'on situe en fait le tact? Est-ce que si on a l'intention d'avoir du tact, s'il n'y a pas d'effet escompté, ça fonctionne, on appelle ça du tact? Ou est-ce que c'est uniquement si c'est l'effet achevé que ça fonctionne?
Alors je crois que c'est une bonne question, elle dit la difficulté de la chose, c'est-à-dire que le tact se joue dans l'échange lui-même. Dans l'échange lui-même. Donc ça veut dire qu'effectivement, je peux avoir la volonté de préserver l'autre, et ça peut être très mal reçu par l'autre, donc le tact aura échoué, lamentablement. De la même façon, ça peut être l'autre qui ressent un effet de tact de ma part, que moi je n'avais pas intentionnellement mis dans ce que j'ai dit. Alors là, ça fonctionne, c'est du tact pour lui. Hein, mais je crois que c'est vraiment, ça se joue dans les deux pôles que vous avez distingués en vérité. Ça se joue dans cet échange, et c'est pour ça que c'est assez délicat comme notion, parce que précisément, ça peut échouer à tout moment, soit parce que je n'y arrive pas, je ne trouve pas le mot, soit parce que l'autre ne l'entend pas comme je l'ai dit, soit, etc. Bon, c'est des situations concrètes, je suppose que tout le monde a expérimenté. Vous dites quelque chose à quelqu'un, je ne sais pas, par exemple à des parents quand on est jeune, pour calmer une situation, et ça produit exactement l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ils vont s'emparer de ce que vous avez dit pour calmer la situation. Ah, c'est justement ce qu'on te disait, et voilà, là, l'attaque a échoué. Mais je pense que c'est dans le va et vient que ça se joue.
Alors une dernière question sur le tact, et après je pense que mes collègues vont élargir sur Lévinas. Est-ce que ça serait souhaitable un monde où il n'y aurait que du tact.
Non, puis c'est pas possible. De toute façon, c'est pas possible. Il y a des situations dans lesquelles le tact est totalement inopérant et totalement impuissant. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre ce qu'on leur suggère sans le leur dire. Donc là, voilà, il y a des situations de conflit dans lesquelles il faut passer, sans jeu de mots, mais un peu quand même, du tact à l'acte. Quoi. Voilà, on est obligé de se défaire de cette attention à l'autre pour dire non, ça c'est non. Voilà, forcément. Donc, je ne pense pas qu'un monde entièrement fait de tact soit possible. Maintenant, on en est très loin. On en est très loin. Et donc, je pense qu'il y a quand même des espaces qu'on pourrait gagner pour le tact, de sorte, si vous voulez, à rendre un peu moins excitées nos relations sociales, qui quand même, selon les périodes, mais enfin là, en ce moment, sont dans le monde, je sais pas, politique, par exemple, géopolitique, aisément pour la guerre en Ukraine, ou politique au sens même de la politique française, assez excité et en plus sans grand intérêt, parce qu'il y a eu des périodes de grandes confrontations politiques qui étaient intéressantes. Notre époque me semble pas, d'un point de vue politique, passionnante, alors qu'il y a de l'invective tout le temps.
Vous êtes professeur de philosophie, est-ce que vous enseignez la philosophie avec tact?
C'est une bonne question. Alors j'enseigne la philosophie avec beaucoup d'énergie, on va dire. J'essaye, en tout cas, bon, c'est, y a, comme dans tout métier, il y a un aspect répétitif, hein, c'est chaque heure, chaque jour. Bon, mais j'essaye de l'enseigner avec beaucoup d'énergie. Alors, ça veut dire que je pense qu'il y a un certain tact. Maintenant, le tact ici ne veut pas dire forcément que je préserve mes élèves de tout accès de colère et tout ça. Je pense que dans l'enseignement, tous les expédients sont bons. C'est-à-dire que des fois, pour faire comprendre quelque chose, il faut bam, un grand coup de poing sur la table. C'est pas méchant, hein, c'est comme ça, ça réveille, ça frappe. Et puis les élèves, ce que je constate du moins, c'est qu'effectivement, ils apprécient ça aussi, que ce soit pas quelque chose de monocorde, de toujours très réservé dans la façon d'exposer, mais que de temps en temps, il y a des petites explosions. Alors, j'essaie évidemment de ne jamais blesser quelqu'un, voilà, comme dans toute relation sociale. Mais bon, de temps en temps, un peu de provocation, c'est pas mauvais non plus, voilà. Donc, avec tact, mais aussi avec parfois du contact, quoi.
Emmanuel Lévinas, un philosophe que vous avez beaucoup étudié, a développé une philosophie axée sur l'autre. C'est un thème assez profond chez ce philosophe. Comment la philosophie, selon vous, de Lévinas a-t-elle influencé votre réflexion sur le tact?
Alors, dans le livre sur le tact, parce que c'est vrai que Lévinas est un grand penseur de l'altérité, on le disait au début. Dans le livre sur le tact, il est question de Lévinas, pas majoritairement. J'ai fait des livres qui étaient consacrés entièrement à Lévinas, mais il est question de Lévinas. Alors j'essaie de vous dire sur quel plan je le mobilise, disons, si je puis dire, pour le tact. C'est qu'il y a dans... Alors, il faut que je donne un peu de contexte. Je suis désolé, il faut que j'élargisse un petit peu. Mais dans ma lecture de Lévinas, je suis extrêmement sensible au dialogue secret, souterrain, mais évident pour quiconque le lit de près, que Lévinas entretient avec Sartre. Hein, au début de Totalité infinie, le premier grand livre de philosophie de Lévinas, il parle d'un autre penseur juif allemand qui s'appelle Franz Rosenzweig, un type extrêmement important aussi pour moi, sur lequel je travaille beaucoup, en disant il est trop souvent présent pour être cité dans ce livre. Et moi, je crois qu'on peut appliquer exactement cette formule à Sartre aussi, parce que toutes les grandes prises de position philosophiques de Lévinas dans Totalité infinie sont des prises de position vis-à-vis de Sartre. C'est un grand lecteur de Sartre. L'inverse est faux. Enfin, n'est pas vrai. Sartre n'a quasiment pas lu Lévinas. Mais Lévinas, lui, lisait tout ce que c'est ça. Donc, il y a ce dialogue entre les deux qui m'intéresse beaucoup. Donc, ce que je prends chez Lévinas dans mon livre sur le tact, c'est la chose suivante qui est liée à Sartre. Pour ça, je faisais ce petit détour. C'est que Sartre, pour le dire rapidement, dans L'être et le néant, donc dans son grand traité d'ontologie, il étudie donc les manières d'être, qu'est-ce que ça veut dire être pour ceci, pour cela, pour une chose, pour une conscience. Et Sartre distingue, comme le titre le dit d'ailleurs, deux grands modes d'être qui sont, l'en soi et le pour soi en langue technique, mais on va dire plus simplement l'être et le néant, comme le titre le dit. Voilà, il distingue deux choses, il y a l'être d'un côté, il y a le néant de l'autre. Donc on est sur quelque chose de binaire. Voilà. Et Lévinas, c'est quelqu'un qui a été soucieux de compliquer un peu les choses par rapport à cela. C'est compliqué chez Sartre, mais enfin, Lévinas a été soucieux qu'on ne s'en tienne pas à cette opposition de l'être et du néant. Et pour essayer de la mettre en question, cette opposition, il utilise une notion dans Totalité infinie qui est celle d'intervalle de l'être. Intervalle de l'être, il faut entendre donc comme une percée dans un être qui serait massif, mais cette percée, c'est pas le néant massivement. C'est quelque chose qui vient mettre en question la solidité, pour ainsi dire, de l'être. Et il me semble que cette expression d'intervalle de l'être, elle dit assez bien le lieu où se déploie le tact. Parce que précisément, si dans le tact je cherche à ne pas écraser l'autre, ça veut dire en termes philosophiques et ontologiques que je cherche à ne pas lui imposer mon être. C'est-à-dire que je cherche à ne pas donner son plein déploiement à mon être, à ma puissance, pour le coup, cette fois-ci aussi. Et qu'à un moment donné... Alors voilà, c'est ça, c'est l'intervalle de l'être. Et c'est en ça que Lévinas me paraît intéressant. C'est que c'est un penseur qui dit, contre une certaine tradition philosophique, que précisément, l'être, bien sûr que dans son déploiement, il est impérialiste, potentiellement oppressif, etc. Mais qu'il y a en l'homme cette possibilité aussi de se retenir de tout cela. Et c'est ça que dirait cet intervalle dans l'être, et donc le tact aussi pour moi.
On dit souvent que la philosophie, c'est quelque chose d'abstrait, assez conceptuel, pas toujours ancré dans la réalité. Là, vous faites l'éloge du tact, ça parle d'un comportement humain, en fait. Est-ce qu'on peut dire, dans cette situation, que le tact est lié à la morale et au fait d'agir moralement, avec cette conscience de la morale ?
Alors, si on le disait dans des catégories traditionnelles de la philosophie, oui, enfin, ça relève de l'attention à l'autre, donc ça relève de ce qu'on appelle traditionnellement la morale ou l'éthique, comme vous voudrez. Ici, je ne fais pas la distinction. Alors, c'est vrai que j'essaie de... Parce que bon, quand on dit que ça relève de la morale, la difficulté qu'on va avoir philosophiquement, à mes yeux, un des grands penseurs de la morale, c'est Kant. Chez Kant, la morale, elle s'appuie sur ce qu'il appelle la loi morale. C'est-à-dire, il y a une loi, il y a un certain nombre d'impératifs qui s'imposent d'eux-mêmes, si je puis dire, parce que tout homme les trouve dans sa propre raison. Et d'une certaine façon, c'est un tout petit peu plus compliqué ce que j'essaye de penser avec le tact, enfin, me semble-t-il, parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la morale au sens courant, mais qui ne repose pas précisément sur un horizon moral qui serait déjà déterminé. C'est pour ça que je dis que c'est quelque chose d'inattendu, on le disait tout à l'heure, c'est qu'il y a précisément... comme une manifestation, pour essayer de le dire simplement, il y a une manifestation de la liberté pour moi dans le tact. Et la liberté, c'est ce qui s'oppose au déterminisme dans ce cas-là, c'est-à-dire ce qui s'oppose à un pur enchaînement de causes et d'effets. Et ça, c'est la continuité de l'être aussi, c'est ça, c'est cet enchaînement de causes et d'effets. Et donc, dans le tact, alors, je voudrais qu'on entende que c'est moral, mais pas au sens où ce serait dicté par une grande loi morale. C'est quelque chose qui, bien que ce soit moral, doit être remis en question dans chaque situation, avec chaque personne, à chaque moment. Voilà.
Et justement, pour continuer sur la question de la morale, aujourd'hui c'est devenu une sorte de gros mot, un sujet un peu tabou. Vous, quel regard vous portez sur cette évolution de la place de la morale dans notre société ? Est-ce que vous avez fait ce constat aussi qu'aujourd'hui parler de morale, c'est vu comme quelque chose d'un peu arriéré et conservateur ?
Alors, je suis un petit peu réservé là-dessus, c'est-à-dire que, parce que deux choses. Le discours sur la morale, oui, j'entends ce que vous dites, bien sûr. Le discours sur la morale, dans le sens où effectivement ça renvoie à des choses très déterminées, très historiques, etc., est un peu battu en brèche. Mais moi, ce que je constate, alors je suis désolé pour mes élèves, les pauvres, ce que je constate, c'est qu'en fait, j'ai affaire aujourd'hui à des jeunes gens de 17 ans qui sont complètement pétris de morale, mais d'une morale qu'ils ne maîtrisent pas, en vrai, mais qui sont très conformistes en vérité, hein. Enfin. Désolé pour eux, je les aime beaucoup, on s'entend très bien, on discute beaucoup, mais justement, ils sont extrêmement conformistes, en fait, les élèves d'aujourd'hui. Et ils sont eux-mêmes très moralisateurs. Il y a plein de choses qui les choquent sans qu'ils sachent dire pourquoi. Et ils ne se posent même pas la question, c'est comme ça, monsieur. Donc, bon, c'était certainement pareil à mon époque, hein. C'est pas pour dire changement d'époque, j'en sais rien. C'est certainement pour mon prof de philo aussi, on était, je suppose. Mais je crois qu'il y a une espèce de, oui, il y a une espèce de jeu entre le fait que la morale n'a plus forcément bonne presse, parce qu'on n'a pas de grands penseurs de la morale. Si vous prenez Kant, malgré tout, moi j'aime beaucoup aussi Kant, c'est une pensée extraordinaire de la morale. Et le mot ne fait pas peur du tout. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de penseurs géniaux de la morale, donc on a tendance à mettre un peu à distance, mais en même temps, de façon un peu inconsciente et sociale, il y a une sorte de morale implicite très lourde qui pèse aussi beaucoup, je crois.
Est-ce que le tact est universel ou est-ce qu'il y a des spécificités culturelles qui font qu'il y a plein de tacts différents ?
C'est aussi une bonne question. Et anecdote, parce que quand j'ai sorti le livre, j'ai une collègue qui m'a écrit, elle me dit « Ah, c'est marrant, j'avais toujours pensé que le tact, c'était complètement culturel. » C'était vraiment un truc bourgeois européen, en gros, pour dire vite, c'est pas ce qu'elle m'a dit, mais enfin, en gros, c'est ça qu'elle voulait dire. Et donc, elle me dit « C'est marrant, parce que je suis curieuse de lire le livre, parce que, alors effectivement, il y a vraisemblablement des formes culturelles du tact. » C'est-à-dire qu'une façon de préserver l'autre n'est pas forcément la même à tel endroit du globe et à tel autre. Mais je crois qu'il y a quand même quelque chose dans cette... Parce que comme j'essaie de décrire le tact en termes ontologiques, pour moi ce sont des termes qui sont valables universellement, ils sont ontologiques. Donc je crois que dans cette attention à l'autre qui marche ou qui ne marche pas, comme on a vu tout à l'heure, et qui peut échouer hein, tout le temps, il y a quelque chose... Qui, à mon sens, va vers une forme d'universalité. Oui, il y a une attention à l'autre, pour le dire très simplement, qui, à mon avis, a une dimension universelle. Qu'après, on puisse la mettre en œuvre de façon circonstanciée selon les lieux et qu'effectivement, un mot ou une manière de dire un mot ne signifie pas du tout la même chose ici et là, oui, je crois qu'on peut accorder les deux. Il y a quelque chose d'universel, même s'il y a des formes culturelles certainement diverses. Et c'est vrai qu'il y a aussi la possibilité d'une sorte de confusion. Si vous voulez, c'est par exemple la thèse, parce que c'est une question philosophique en vrai très importante, c'est la thèse d'Adorno, par exemple. Adorno, lui, considère que le tact, c'est lié à une époque donnée de l'humanité, c'est l'avènement de la bourgeoisie. Et que les conditions de la bourgeoisie ayant disparu, le tact n'a plus aucun sens. Il le dit, hein, explicitement, dans ses Minima Moralia, il dit ça. Bon, alors moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui va au-delà de ça. Hein. Donc, le trait d'universalité que vous me souffliez.
Je veux revenir sur Levinas, mais c'est pas parce que c'est une marotte, mais j'en profite. Y a un concept que j'aime beaucoup avec Levinas qui dit que le face-à-face avec l'autre nous amène à une responsabilité infinie. Je me pose la question, c'est comment le tact peut nous permettre de naviguer dans cette espèce de responsabilité infinie. Est-ce que le tact nous permet de voguer dans cette espèce d'espace?
Alors, c'est une bonne question. Donc, chez Levinas, il n'y a pas la notion de tact comme telle, hein, mais de fait, non, mais du coup, c'est d'autant plus intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, alors j'explique un tout petit peu chez Levinas, peut-être, je ne sais pas comment les auditeurs ou les gens connaissent. Effectivement, donc Levinas accorde à la rencontre d'autrui une importance capitale. En gros, ce qu'il dit, c'est que la rencontre d'autrui, ça se fait par le visage. Alors, le visage, c'est lui, bon, c'est toute la complexité de sa pensée, c'est qu'évidemment, ça renvoie au visage qu'on a tous là sur le haut de notre tête et que tous les autres voient, mais pas nous, bon, au moment où on parle. Donc, la partie de nous que les autres voient sans que nous, enfin, sauf quand on fait des trucs genre photo ou quand on se regarde dans le miroir, mais enfin, c'est pas vraiment en situation. Donc, le visage, c'est par là que se donne l'altérité d'autrui. Et ce visage, la caractéristique chez Levinas, bon, même si ça va un peu vite là, c'est que ce visage, en fait, il me demande quelque chose. Hein, il me commande quelque chose. Le commandement que Levinas traduit souvent par la formule « tu ne tueras pas ». Tu ne tueras pas, ça veut dire, d'abord, dans un premier sens, il y a le sens courant, évidemment, tu ne tueras pas, mais ça va plus loin chez Levinas. Tu ne tueras pas, ça veut dire, ne transforme pas mon visage, donc ce qui te demande quelque chose, ne le transforme pas en un faciès. Ne le réduis pas à ses traits plastiques. Bon, je ne sais pas comment on parle d'un délit de faciès, en vérité, c'est exactement ce qui se passe. Vous fixez sur la gueule de la personne le délit supposé qu'elle a commis parce qu'elle est ceci ou cela. Donc, tu ne tueras pas chez Levinas, ça veut dire ça. Ça veut dire, mets-toi quand même en situation d'accueillir le visage comme autre et pas comme quelque chose que tu pourras cataloguer tout de suite par sa forme, par la couleur de sa peau, par etc. Donc, c'est ce que dit Levinas. Maintenant, cette responsabilité chez Levinas, il la pousse, il l'hyperbolise, disons. C'est-à-dire qu'il en fait une responsabilité assez écrasante, en vérité, parce que je suis absolument responsable de l'autre. Et donc, ma responsabilité, elle est infinie, elle est gigantesque. Et alors, peut-être qu'ici, le tact, précisément, c'est ce qui permettra, comme vous l'avez dit, la formule était très belle, de naviguer dans cet espace de la responsabilité, qui est une responsabilité potentiellement écrasante, effectivement. Alors, il y a de la responsabilité, comme j'ai dit tout à l'heure, puisque c'est l'attention à l'autre, mais en même temps, on est dans une forme plus douce, disons, que la forme écrasante de la responsabilité illimitée pour autrui, y compris pour ce dont je ne suis absolument pas responsable, parce que ce que dit Levinas dans ses derniers textes, c'est qu'au fond, je suis responsable, y compris de ce que je n'ai pas voulu, y compris, voilà, jusqu'à la substitution et au sacrifice. Donc ça va très très loin.
Mais en fait, ce qui me pose question, c'est la... Le degré de subtilité et de maîtrise que nécessite l'acte de tact. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui suppose une subtilité qui n'est vraiment pas si commune que ça.
Alors, c'est vrai, bien sûr. Il y a une question de subtilité, évidemment. Alors, à mon avis, il n'y a pas de question de degré de subtilité parce que ça ne se mesure pas. On n'est pas dans quelque chose qui est quantifiable. Je crois, on est dans, c'est toute la difficulté, hein. On est dans quelque chose qui est de l'ordre du qualitatif absolu et pas du tout du quantitatif. Donc, moi, ce que je pense, c'est que cette subtilité, évidemment, elle n'est pas répandue partout. Ça, on est obligé de le constater quand on regarde autour de nous. Mais moi, je crois que tout homme en est capable. Maintenant, le tact, ça consiste précisément, de ce point de vue, du point de vue de votre question, le tact, ça consiste précisément à aller chercher en soi la subtilité que très souvent, on ne met pas en œuvre dans nos relations avec les autres. Mais je crois que là, encore une fois, avec tous les risques de l'échec, avec tous les risques de l'incompréhension, du quiproquo, etc., mais qu'il y a au moins cette... Je retourne entièrement la chose, c'est-à-dire qu'il y a aussi vis-à-vis de soi-même un tact qui consiste à se dire qu'on est capable de cette subtilité. Voilà. Même si ça n'est pas aisé.
je rebondis, parce qu'en fait, la question que je voulais vous poser, que vous avez sans doute déjà abordée, c'est celle du manque de tact de notre société, qui multiplie les actes de violence à tous les échelons, et la violence symbolique aussi, qui est en permanence aussi une preuve de... Enfin, qui passe par un manque de tact dans les rapports interpersonnels.
Bah, on est dans une société, disons, comme ça, pour lui pas sombrer trop non plus dans la discussion sociopolitique trop simple, on est dans une société que moi j'appellerais en riant un peu transpirante. Transpirante, c'est un mot que je pique à Nietzsche. Nietzsche parle, en parlant de Wagner, de musique transpirante. Musique transpirante, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une musique qui s'impose, une musique qui est lourde et qui écrase. Bon. Que ce soit vrai ou pas de Wagner, hein, c'est pas du tout mon propos, je m'en fiche. Nietzsche oppose de ce point de vue-là Bizet, musique légère, à Wagner, la grosse musique écrasante. Alors, dans notre société, il y a bien des traits de transpiration dans ce sens-là, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui s'imposent avec très peu de subtilité, vous avez parfaitement raison, hein, mais je crois que, justement, c'est parce que notre société manque parfois de subtilité, que ça devient important de la repenser, cette subtilité. Parce que, encore une fois, si notre société, en étant massive, produisait de l'intérêt, des vocations, des envies de la part des gens, ce serait formidable. Mais c'est pas le cas. On a des choses très massives. On a, si on prend, alors bon, c'est un peu de généralité, mais enfin, si on prend les désirs d'une bonne partie de la population, maintenant globale ou mondiale, il y a une uniformisation quand même constante de ces désirs. Donc c'est aussi, pour moi, un manque de tact absolu. C'est-à-dire c'est une preuve de massivité de notre façon de vivre, de notre façon de sentir les choses. Mais ça ne donne rien d'intéressant. Enfin, je veux dire, on manque quand même cruellement, là, je crois, enfin, c'est peut-être un peu trop massif comme affirmation, mais je crois quand même qu'il y a quelque chose de vrai. On manque cruellement de choses dans la société qui suscitent de l'intérêt, de la vocation et qui donnent envie.
Et en parlant de ce manque dans la société, on a l'impression que les grands intellectuels, les grands penseurs, on se réfère toujours au passé et qu'au XXIe siècle, on manque justement de ces grands philosophes modernes dans notre époque contemporaine. Est-ce que justement la philosophie a du mal à s'imposer ou en tout cas à reprendre toute sa place, sa juste place dans notre société parce qu'elle n'est pas transpirante ?
Alors oui, dit comme ça, je dis oui tout de suite, maintenant je développe un peu, parce que oui, je pense que c'est vrai. Alors il y a deux choses, il faut se méfier toujours, je crois, hein, du « c'était mieux avant, on avait des grands intellectuels », même si ça peut m'arriver de dire des choses comme ça, ou comme à tout le monde, mais il faut s'en méfier. Quand on s'entend dire ça, il y a des moments où il faut se dire « oula, est-ce que je ne suis pas en train de sombrer dans la massivité quand même ?» Donc je pense qu'il y a des choses, je pense qu'il y a certainement des intellectuels qui aujourd'hui développent des pensées intéressantes. Ce qui est sûr, c'est que... c'est moins visible que ça a été par le passé, disons quelque chose comme ça. Je pense qu'en cherchant, on trouve des choses très intéressantes, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où ça s'imposait. Mais ça s'imposait aussi, je crois, par la structure de la société française. C'est-à-dire que, si vous voulez, en gros, tous nos grands intellectuels du XXe siècle, ce sont des universitaires, hein, qui avaient des places auxquelles on attribuait à ce moment-là une sorte de valeur absolue et qu'on écoutait religieusement, c'est beaucoup dire, mais quand même un peu religieusement. Voilà. Ça s'est compliqué. C'est pas forcément un mal d'ailleurs. Ça s'est compliqué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les foyers de production de la pensée et de l'intelligence, c'est plus l'université. Ça, pour moi, c'est très clair. Ça n'est plus l'université. L'université, c'est un lieu de carrière, c'est un lieu de reproduction des savoirs. C'est plus un lieu de création des savoirs. Alors, du coup, ça rend les choses plus complexes parce que ça veut dire que pour découvrir ce qui se pense de façon créative aujourd'hui, de façon neuve, ben, on n'a pas de lieu assigné. Et ça rend la chose très, très délicate, c'est-à-dire que très souvent on découvre un truc, on se dit « mais c'est incroyable que j'ai jamais entendu parler ça, parce que c'est vraiment intéressant ». Mais alors ça existe depuis 10-15 ans, mais sauf que comme c'est pas monsieur Intel du Collège de France, bah, on l'a pas eu. Donc voilà, il y a ça. Alors maintenant, la philosophie et son impuissance, parce que ça c'est un trait, de toute façon je pense moi que c'est un trait fondamental de la philosophie, c'est comme ça. Si vous prenez, je le fais en image, mais si vous prenez Socrate, voilà, première figure, mettons, de philosophe, en tout cas à mes yeux, il y a eu d'autres philosophes avant, mais première figure forte de philosophe. En fait, la fin de la vie de Socrate montre son impuissance. Il est condamné à mort. Il est condamné à mort pour ce qu'il a fait. Et à côté de lui ou en face de lui, les sophistes, je ne parle pas de la réalité des sophistes, mais je parle des sophistes tels qu'ils sont mis en scène par Platon dans les dialogues de Platon, mais les sophistes l'emporteront toujours. La démagogie l'emportera toujours, la rhétorique l'emportera toujours. Socrate, il peut gratter, il peut essayer, il peut de temps en temps aller bousculer quelqu'un par ses questions, éveiller son esprit, etc. Mais c'est un par un, donc de toute façon, c'est fichu par rapport à la massivité. Mais en même temps que c'est fichu, c'est intéressant quand même parce que précisément, c'est aussi un petit intervalle de l'être. C'est aussi quelque chose qui est de l'ordre du tact, même si parfois Socrate, il est lourd avec ses questions, c'est pas toujours. Hein. Mais quand même, il y a l'attention à l'autre. Alors, c'est impuissant et en même temps, à mon avis, c'est absolument considérablement intéressant. Voilà, c'est quelque chose d'essentiel.
Alors, peut-être la dernière question ou l'avant-dernière. Alors, je vais revenir sur Lévinas. Les auditeurs sauront que c'est une question importante avec le tact. Y a un concept de Lévinas que j'aime beaucoup, qui est la trace de l'autre. Ouais. Je me pose la question, est-ce que selon vous, comment le tact pourrait-il nous permettre de respecter cette trace et se souvenir de l'autre dans nos interactions quotidiennes?
Alors, c'est une notion très importante. Vous avez raison, très intéressante, la trace chez Lévinas. Alors, comment on pourrait l'associer à la question du tact? Je crois que la trace, ça dit chez Lévinas l'effet que produit l'autre en moi, qui est un effet qui n'est pas du tout justement une intrusion de quelque chose, mais une espèce de truc extrêmement fugitif, fugace, qui me traverse. Voilà. Un peu métaphorique, mais c'est un peu ça que, de toute façon, la notion est métaphorique de trace. Donc, il y a quelque chose de ce genre-là. Et précisément, on est tout près du tact, dans le sens où il s'agit dans le tact d'entrer en relation, en contact avec autrui, avec quelqu'un d'autre, sans l'envahir. Donc précisément, sous la forme d'une trace qui peut être parfois, chez Lévinas, il y a des choses comme ça, un peu obsédantes, parce qu'elle revient, elle retourne, elle fait effet, mais voilà, d'une espèce d'obsession, c'est un mot très fréquent chez Lévinas, hein. Lévinas dit que je suis otage de l'autre, et obsession, obsesse en latin, c'est l'otage, donc voilà, l'autre m'obsède au sens où il me tient prisonnier d'une certaine façon, par cette trace précisément, par ce commandement, qui m'adresse toujours à nouveau. Hein, tu ne tueras pas, voilà ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc je pense qu'on peut faire le lien de ce point de vue-là, c'est-à-dire que le tact, d'abord c'est une forme de trace de ce souci que je peux avoir de l'autre, et de ce point de vue-là, il me prescrit, encore une fois avec tous les risques que ça ne marche pas, mais il me prescrit d'avoir avec l'autre une relation qui laisse une place à quelque chose. Alors je le dis autrement, si vous voulez, c'est si vous prenez Internet par exemple, voilà, vous prenez Internet, vous avez des algorithmes et vous avez des capteurs qui regardent tout ce que vous faites, qui analysent vos comportements de consommateurs, qui les décomposent. C'est-à-dire qu'en gros, vous et moi, on est des individus, mais en fait, on est réductible à des tendances. Voilà, c'est tout simple. On peut analyser ça marche très bien d'ailleurs. Enfin, c'est même effrayant, mais ça marche très très bien. Et donc, on peut prescrire la consommation de façon très efficace. Bon, alors ça veut dire que c'est un mode d'intrusion en nous. Même si ce n'est pas un autre au sens d'autrui, mais c'est un mode d'intrusion qui ne laisse plus aucune place à ce que Lévinas appelle le secret des êtres. C'est-à-dire que tout est à nu, tout est déplié, tout est sur la table et tout est marchandisable. Hein, voilà, tout peut devenir objet d'un échange commercial pour le coup. Et je crois que justement la trace, ce serait laisser cette possibilité qu'il y ait quelque chose dans l'individu qui échappe. Ce quelque chose est très dur à dire, secret ou trace, voilà. Chose de fugace.
On va terminer cette interview avec trois petites questions rapides. Votre premier souvenir philosophique?
Waouh! Mon premier souvenir philosophique, non, c'est très simple. J'ai pas du tout apprécié la philosophie en terminale. Je devrais jamais dire ça, mais j'ai séché quasiment tous mes cours. J'ai découvert la philosophie à la fac de façon tout à fait inattendue. J'étais en fac de lettres modernes. J'étais en fac de lettres, je lisais beaucoup, j'aimais beaucoup la littérature, etc. Et puis j'ai des copains, bon, voilà, j'étais à Paris 7, à Jussieu à l'époque, ça s'appelait. Et puis des copains me disent, oh, tu devrais aller voir, il y a un cours de philo, c'est extra, le prof. Hein, bon, moi, la philo, j'aimais pas. Donc, et ils me font, mais si, quand même, tu devrais y aller. C'était le dernier secrétaire de Sartre. Ah, il se trouve que je lisais beaucoup Sartre, j'aimais beaucoup Sartre, déjà. Donc je me dis, ah, quand même, le dernier secrétaire de Sartre, bon, j'y suis allé. Le monsieur en question s'appelait Benny Lévy. Et il est resté mon maître jusqu'à sa mort, en vrai, de 86 jusqu'à sa mort en 2003. Et c'est un immense professeur, un immense penseur. Je m'occupe maintenant de publier ses cours et ses livres. Il est mort il y a 20 ans cette année. Et voilà, c'est mon premier souvenir philosophique, c'est-à-dire quelqu'un qui marche dans une salle, il marchait tout le temps, casquette sur la tête, il marche dans une salle et il a une voix absolument invraisemblable, c'est-à-dire que de temps en temps, ça chuchote, de temps en temps, ça hurle, de temps en temps, ça se déploie comme ça à toute allure. Et le type, vous avez l'impression qu'il fait un cours à 30 ou 40 personnes, je ne sais pas combien on était. Vous avez l'impression qu'il vous parle seulement à vous tout le temps. Voilà, c'est ça mon premier souvenir philosophique. C'est quelqu'un qui me pose des questions que je ne me suis jamais posées. Il les pose à moi et je sais qu'il faut absolument que je réponde. Voilà.
À quoi vous sert la philosophie dans votre vie quotidienne?
Ça, je sais. Je ne saurais pas trop dire. Je pense que les choses dont on a parlé ici, je pense qu'au bout d'un moment, quand on est dans la philosophie, ça devient, enfin, en tout cas c'est le cas pour moi, oui, ça devient une occupation quotidienne. Je ne suis pas très bien placé pour dire, moi, pour tirer le bilan de ça. Je sais que je pratique la philosophie constamment, voilà, que ça m'occupe énormément, tant dans mes livres que dans mes cours, etc. C'est sûr que je n'aurais pas été le même sans enfer, mais maintenant je ne peux pas vous dire tellement. C'est une question pour les autres.
Et une dernière question, est-ce que vous avez un conseil philosophique ou peut-être une recommandation, un ouvrage ?
En général, de lecture ?
Oui.
Ok. Alors, un conseil de lecture. J'en aurais plein, donc il faut que j'essaie d'en trouver un, évidemment. C'est ça, c'est la grosse difficulté. C'est un peu comme le tact, c'est-à-dire que ça dépend beaucoup des situations. Mais mettons, il y a des grands textes qu'on peut relire. Moi, je suis un très grand lecteur de Platon. J'adore les dialogues de Socrate, j'adore la figure de Socrate. Voilà, pas toujours tout ce que dit Platon, mais la figure de Socrate me paraît très importante. Et puis, je crois que maintenant, pour quelqu'un qui voudrait entrer un peu dans la philosophie, qui n'a pas forcément des connaissances très développées, il y a des choses dans notre époque, même si ça a un peu vieilli aux yeux de certains, je pense que la lecture de Sartre est toujours une lecture extrêmement roborative, extrêmement nourrissante et potentiellement intéressante, ne serait-ce que pour le quitter ensuite si on se dit c'est trop simple, mais je pense que c'est quelqu'un qui aide à entrer en philosophie.
Gilles Anus, merci beaucoup.
Merci à vous.